voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. L'émission Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du sens pour pas à pas vivre le changement nécessaire à nos sociétés.
Oui, on est dans la salle commune de la ferme de Belêtre. Et ici, c'est à la fois un lieu de travail et un lieu de vie, un collectif de vie, un collectif de travail ici sur la ferme. Et donc cette salle, elle est, c'est notre salle polyvalente. C'est à la fois la salle où on prend nos repas tous ensemble le midi. C'est aussi là où on fait nos réunions. C'est là où il y a des formations de temps en temps. C'est là où on se croise les uns et les autres pour différents événements. Il y a aussi une commission culture au sein de la MAP qui organise des concerts dans cette salle.
Tu disais un mot intéressant, tu as dit projet collectif et tu as parlé de ferme. Donc on est effectivement dans une ferme. Quand on arrive ici, ce qui surprend, c'est qu'on voit effectivement différentes habitations et puis des gens qui s'affairent un peu à gauche à droite dans différentes activités. J'aimerais qu'on revienne sur l'origine de ce projet. Comment toi, tu es arrivé ici ?
Moi, je suis arrivé sur cette ferme il y a 10 ans. Je travaillais à l'époque dans le réseau de développement agricole alternatif, on va dire. C'est-à-dire que je travaillais pour différentes associations qui œuvrent au développement de l'agriculture biologique et paysanne en Touraine. Et je suis arrivé ici plutôt comme j'étais à la recherche d'un lieu de vie à la campagne, et donc je suis arrivé ici. Et puis, de fil en aiguille, ici, sur cette ferme, il y avait un paysan boulanger, et puis il y avait un maraîcher. Et donc, moi, j'avais un projet d'installation collective depuis déjà un petit moment en tête avec des amis. Et donc, je me suis dit, vu qu'il y a un paysan boulanger, je vais apprendre à faire du pain. Ça me servira peut-être dans un projet plus tard, quoi. Voilà, donc j'ai appris à faire du pain avec lui, puis ensuite je l'ai remplacé, et puis j'ai démissionné de mon travail pour me consacrer au projet d'installation. Petit à petit, les choses se sont agglomérées. On dit souvent qu'il y a eu les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire que Marion, qui était une de mes anciennes collègues, est venue faire une journée de boulange avec moi, juste comme ça, pour voir, puis finalement ça lui a bien plu. Et elle est revenue le vendredi suivant, et puis le suivant, et elle a passé un hiver avec moi au fournil. Et dans un autre fournil en parallèle, elle faisait 2 jours de pain par semaine. Et à la fin de l'hiver, on s'est dit qu'on avait envie de continuer à faire du pain ensemble. Et donc on a acheté la farine à Jean-Luc, qui est l'ancien paysan boulanger et le propriétaire de la ferme. Et on s'est mis à faire du pain avec les anciens clients de Jean-Luc, quoi. Et puis en parallèle, il y avait un maraîcher installé ici, en AMAP. Moi, j'étais AMAPien ici depuis plusieurs années. Et le maraîcher nous a dit qu'il souhaitait arrêter son activité. Et donc on s'est dit, pourquoi pas se lancer aussi dans le maraîchage. Et c'est là que les autres protagonistes sont arrivés. Donc Lucie, qui elle avait déjà fait du maraîchage en tant que responsable de la production dans un jardin de cocagne à côté d'Angers. Et puis Étienne, qui avait été à un moment donné colocataire avec moi ici à la ferme, qui était toujours AMAPien et qui souhaitait s'installer en maraîchage, mais pas tout seul. Voilà, quand il a vu qu'il y a quelque chose qui allait démarrer autour du maraîchage, il nous a dit ça m'intéresse de rejoindre l'équipe. Donc on était 4 pour faire de la boulange et du pain. Et puis des amis nous ont rejoints à ce moment-là, plutôt sur le projet de vie collective.
C'est vraiment une aventure collective, hein. C'est ce qui marque quand tu viens ici. Effectivement, tu traverses des plaines de monoculture un peu partout. Tu arrives dans un petit hameau au milieu de nulle part, en plein centre de la France. Et là, vous êtes tous jeunes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, c'est vraiment cette aventure collective qui vous a amené ici. Est-ce qu'il y avait la compétence de maraîchage d'agriculteur avant ? Est-ce que c'est des compétences que vous avez apprises sur le tard et sur le tas ? Comment tout ça s'est mis en place ?
Nous, on s'est retrouvés autour de l'idée de participer à la transformation sociale, ce qu'on appelle la transformation sociale. C'est-à-dire qu'on partage tout un tas de constats de choses qui dysfonctionnent et qui ne vont pas dans la société dans laquelle on vit. Et on se retrouve autour de l'envie de faire autrement, d'essayer de mettre en cohérence nos idées et nos pratiques, d'incarner en fait un projet politique, mais dans le concret, dans le quotidien. Et il se trouve que c'est l'agriculture qui... C'est dans le secteur agricole que ça s'incarne, parce qu'on a un feeling avec ça, avec le vivant, avec le travailler la terre, être dehors. Voilà, donc nous, c'est notre façon de faire un peu autrement, de participer à un mouvement beaucoup plus large que nous, mais en se disant que si à notre échelle on arrive à être le plus cohérent possible entre nos idées et nos pratiques, et à dégager du temps pour être en réseau avec d'autres, pour accueillir des gens sur la ferme, eh bien, la lame de fond va grossir et un jour déferler sur le rivage capitaliste.
Puis les gens qui sont arrivés ici, donc vous étiez formés au maraîchage ou c'est quelque chose qui s'est mis en place sur le terrain ?
Eh bien, en fait, ça dépend. On est deux à avoir fait une école d'ingénieur en agriculture, donc pas du tout formés à travailler sur le terrain. Au contraire. Mais avec quand même quelques bases d'agronomie et de vocabulaire et de réflexion scientifique qui sont quand même utiles malgré tout. Donc Lucie avait fait 5 ans en maraîchage, donc elle avait des compétences. Étienne avait fait 2 petites saisons en maraîchage, donc arrivait pas complètement... il est ingénieur informaticien par ailleurs. Donc il débarquait pas complètement dans le milieu du maraîchage. Puis il faisait de l'apiculture à titre personnel aussi. Moi j'ai bossé dans le développement agricole, mais plutôt en tant que coordinateur, j'étais au bureau, j'étais derrière un ordinateur, un téléphone et en réunion, à dire ce qu'il faut faire, mais à pas le faire moi-même. Donc j'en ai eu un peu marre. Puis donc j'ai appris à faire du pain sur le tas ici avec Jean-Luc. Marion a appris à faire du pain avec moi et puis avec un copain dans une autre ferme à côté là. Et Martin, lui, terminait ses études. Il a fait de l'hydrogéologie, l'étude des bassins versants et puis de la pédologie. Mais voilà, avait appris à faire du pain tout gamin avec son père et à travailler sur une ferme, quoi. Donc voilà, on a des parcours très différents. Un, issu du milieu agricole, et puis 4, comme on dit, hors cadre familial et hors milieu agricole, quoi.
Ouais, donc c'est vraiment une expérience humaine avec cette envie de rompre avec le clivage social, faire autrement, montrer qu'un autre paradigme est possible, incarner le changement que vous voulez voir dans le monde et se lancer dans cette aventure collective. Et après, comment ça se passe? Comment ça marche?
Le plus gros défi, hein, c'est pour moi, il n'est pas d'ordre technique ou économique quand on fait de l'agriculture biologique. Donc nous, c'est ce qu'on pratique ici, l'agriculture biologique et paysanne. Parce que si on veut produire en bio, maintenant, il y a des références, il y a des expériences, il y a des paysans qui sont en bio depuis quand même des dizaines d'années. Donc il y a un socle de connaissances et de savoir-faire qu'il faut aller chercher. Qu'on n'a pas forcément dans les formations agricoles initiales, mais c'est possible de produire en bio sans trop de difficultés. C'est possible de vendre ces produits en bio sans trop de difficultés. La demande en produits bio, elle explose depuis 2-3-4 ans, c'est plus 10%, 15% par an. Mais le défi, il est humain. Et nous, l'agriculture passait incontournablement par le collectif, par la dimension collective. Aucun de nous se serait installé tout seul, en fait. Donc, qui dit collectif, dit facteur humain. Et on était très préparés à cette dimension-là, parce qu'on a, en tout cas Lucie et moi, passé beaucoup de temps, passé 2-3 années à aller visiter des collectifs agricoles un peu partout en France. Et on a terminé, avant de s'installer, par un voyage à vélo au travers de la France. Et on nous a tellement dit le facteur humain, le facteur humain, le facteur humain, qu'en démarrant une aventure collective ici, on a mis le paquet sur le facteur humain, quoi. Voilà, ça fait 5 ans, souvent les gens me demandent, bah alors ça fonctionne, bah ça a fonctionné pendant 5 ans, c'est toujours remis en cause le facteur humain, on peut pas se dire c'est acquis et ça fonctionne. Alors on s'est donné les moyens de à chaque fois qu'on rencontrait des problèmes ou des difficultés, on a créé des outils pour gérer ça, pour que l'autogestion soit, c'est une de nos motivations de fonctionner en autogestion, mais que ça reste pas une belle ambition, qu'on se donne les moyens de nos ambitions. Donc comment est-ce qu'on gère à 5 une entreprise collective et comment on s'assure que tout le monde va pouvoir participer aux décisions, assumer les décisions, assumer ses responsabilités, comment est-ce qu'on va être efficace en réunion, etc., etc. Donc on a créé des outils au fur et à mesure qu'on en avait besoin, quoi. Je me rends compte que si on nous avait pas mis en garde et si on n'avait pas apporté suffisamment d'attention et mis en face donc des outils, des méthodes pour que ça fonctionne, il y a de grandes chances qu'on n'aurait pas réussi à arriver jusque-là, quoi. C'est vraiment un point qui est sensible, le facteur humain. On a tous nos difficultés, alors quand on les met en commun, ça fait un pot pourri de difficultés à gérer, voilà, qui devient exponentiel, quoi. Donc voilà, il faut vraiment s'y préparer et puis mettre des choses en place, parce que ça se fait pas tout seul, quoi.
Vous écoutez La Voix du Kaizen,
votre aventure humaine, vous êtes venu l'incarner ici, entouré de champs en monoculture avec des agriculteurs qui voient arriver une bande de gens. Comment se passe le lien avec les voisins et les agriculteurs environnants, sachant que eux ne sont pas forcément en bio?
Ouais. Ça se passe avec la plupart, on n'a pas du tout de lien. C'est vraiment deux mondes, quoi. Enfin, on est sur des planètes. On a vraiment l'impression d'être sur des planètes différentes, quoi.
Parle-moi de ces deux univers et de ces deux mondes, ce qui les oppose.
Bah, pour résumer en quelques chiffres, nous, on est 5 associés sur 19 hectares. On est en bio, on plante des arbres, on transforme nos produits et on les vend en direct. Les voisins, ils sont tout seuls sur 400 hectares avec un salarié. Ils font de l'agriculture chimique. Les céréales partent, ils ne savent pas d'où. C'est pas eux qui fixent le prix de leurs céréales. Ils arrachent des arbres et ils n'ont aucun lien avec le consommateur. Enfin, voilà, c'est deux métiers, c'est deux modes de vie, c'est des motivations qui sont aux antipodes les unes des autres, quoi.
Mais aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que dans le conscient ou l'inconscient collectif, tout le monde va vers une quête de sens. Donc comment est-ce qu'un mec sur un tracteur qui balance avec ses sprays de 12 mètres du glyphosate dans les sols peut continuer à garder la tête haute?
Bah déjà, il ne le fait pas lui-même, il le fait faire à son salarié. Parce que je pense qu'il sait que c'est dangereux et qu'il faut éviter de respirer ça, de se trouver auprès de ces produits-là. Et puis, bah je ne sais pas, il faudrait leur demander si vraiment ils ont la tête haute. Voilà, le discours qu'on entend souvent, c'est de toute façon, il faut nourrir le monde. Et ce n'est pas l'agriculture bio qui va nourrir le monde. Ce qui est faux, je crois vraiment pas que ce soit vrai, parce qu'aujourd'hui, c'est un leurre. Ils nourrissent le monde, mais à grand renfort de mécanisation, de pétrole, de chimie. Et tout ça, c'est une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Ça ne va pas durer bien longtemps, je pense. Avec des conséquences environnementales, climatiques, etc., qu'on connaît. C'est une illusion. Ils ont l'impression d'être puissants, de nourrir le monde et d'être utiles à la société. Mais quelque part, il y a un revers à cette médaille. C'est la destruction des écosystèmes, pollution de l'eau, dégradation de la santé humaine, avec les coûts qui sont cachés, ce qu'on appelle les externalités. Si elles étaient internalisées, c'est-à-dire que le coût aujourd'hui, le coût du kilo de pain à la boulangerie du bourg, là, il est moins cher peut-être que celui que nous on fait ici à la ferme, parce qu'il ne requiert pas le même travail, et puis il est issu de filières différentes. Mais quelque part, si on internalisait dans le coût de ce kilo de pain le coût de destruction de la biodiversité, de pollution des eaux, donc de dépollution des eaux, de pollution de l'air, d'impact sur la santé humaine, de sécurité sociale, de fonctionnement des hôpitaux, etc., 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 notre prix de kilo de pain en bio, il est forcément plus compétitif, comme ils disent.
Et le consommateur, quelque part pénalisé, parce qu'à travers ses impôts, va aussi participer à la fabrication de ce pain en conventionnel qui, lui, est subventionné par la PAC.
Voilà, exactement. C'est quasiment la moitié du budget de l'Europe qui est destiné à la PAC, à la politique agricole commune. C'est l'argent des contribuables européens, donc qui ont l'illusion de payer une nourriture pas chère, mais qui repaye à double frais ce qu'ils achètent, c'est-à-dire par leurs impôts et par la dégradation de leur santé et de leur environnement, quoi.
Et donc vous arrivez ici avec cette forme de conscience, cette envie de faire différemment, se pose aussi la question de ce modèle économique. Est-ce qu'on arrive à vivre ensemble et à développer une activité de maraîchage et à sortir un salaire viable pour chacun pour combler ses besoins?
Eh ben aujourd'hui, nous, on est notre objectif, c'était de développer la production. Il faut savoir que nous, on a démarré, on a repris une activité sur une ferme de 40 hectares où il y avait un paysan boulanger et un maraîcher. Donc il y avait deux paysans et nous, d'un seul coup, on était 5 paysans. Et on a divisé la surface par deux. On loue 19 hectares aujourd'hui sur les 40 de la ferme. Donc c'était quand même un défi. On ne s'est pas lancé comme ça à l'aventure sans savoir où on allait. On a fait des formations pour chiffrer notre projet. On a fait un budget prévisionnel. Et on avait prévu le développement de l'activité pour pouvoir se tirer 5 salaires au SMIC au bout de 5 ans. Finalement, on y a réussi au bout de 4 ans. Donc aujourd'hui, on est tous les 5... tous les 5 au SMIC, et le défi, c'est d'essayer de vu qu'on se paye un SMIC à 35 heures, de travailler réellement 35 heures. C'est notre défi pour 2019. Et par rapport au volet économique, Nous, on est installé sur un statut un peu particulier. On est en SCOP, donc Société Coopérative de Production, qui est un statut très très rare en agriculture. Et on a choisi ce statut-là parce que on a fait le constat, en vadrouillant un peu dans le milieu, dans le monde paysan avant de s'installer, y compris dans le monde paysan militant proche de nous, on a beaucoup entendu le renouvellement des générations agricoles, c'est quelque chose de primordial, il y a une hémorragie dans le monde paysan, il faut installer, quoi, il faut que des jeunes s'installent. Et donc ces paysans qui nous disent ça pendant toute leur carrière, arrivés à l'âge de la retraite, nous disent « faut installer des jeunes, mais ma ferme, elle vaut 500 000, 700 000 ou 800 000 euros, quoi ». Et nous, on leur répond, mais comment c'est possible d'installer des jeunes à ce prix-là? Enfin, ils nous disent, mais vous, ouais, je comprends, ça fait cher, mais j'ai travaillé dur toute ma vie, j'ai fait des emprunts, donc j'ai dû les rembourser, puis j'ai peu cotisé, donc je vais avoir une toute petite retraite. Donc, petite retraite par répartition égale nécessité d'avoir une grosse retraite par capitalisation, donc de réaliser, comme ils disent, leur capital à l'âge de la retraite. Sauf que le repreneur qui va pouvoir mettre 800 000 euros sur la table, eh ben, il va s'endetter, il va travailler dur toute sa carrière pour rembourser ses emprunts, il va payer peu de cotisations sociales, il aura une toute petite retraite, et sa ferme, 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard, elle vaudra plus 700 000, mais 1 million d'euros. Et c'est ce qui se passe depuis 40 ans. On a perdu depuis 30 ans, on a perdu la moitié des paysans en France, et le capital d'exploitation moyen d'une ferme a augmenté de 75% sur la même période. C'est l'hémorragie, il n'y a plus de paysans, il y a des fermes de plus en plus grandes, de plus en plus de capitaux, de plus en plus d'endettement. Et même au sein des structures familiales maintenant, quand on transmet la ferme à son fils ou à sa fille, on se rend compte que même au sein du cadre familial, ces transmissions deviennent impossibles. Le capital est vraiment trop important, quoi. La profession est dans une impasse, quoi. Donc nous, on s'est dit, si c'est ça, s'installer dans l'agriculture, participer à ce modèle-là, on arrête tout de suite, quoi. Donc on s'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait s'installer en renversant les choses, dans un autre état d'esprit, en se disant, on ne va pas compter sur la réalisation d'un capital à la retraite, mais on va essayer d'améliorer la protection sociale du paysan. La protection sociale, donc c'est la retraite, l'assurance santé, accident, maladie, mais c'est aussi l'assurance chômage. Aujourd'hui, un paysan qui s'arrête, parce qu'il a envie de faire autre chose dans sa vie, mais il n'a pas le droit à l'assurance chômage. Et nous, on est, pour la plupart d'entre nous, issus du monde salarié. On a fait autre chose avant, dans notre vie. On fera peut-être autre chose après, notre vie de paysan. Et on est attaché à cette notion de protection sociale, qui, quelque part, est une forme de salaire différé et mutualisé. C'est pour ça qu'on est encore content d'habiter en France. C'est que les travailleurs en France, ils ont une protection sociale de qualité, même si, au fil des années qui passent, on est en train de la détricoter, cette protection sociale. Mais nous, on y est attachés et on se dit, si on peut compter sur une protection sociale de qualité et une retraite digne, c'est-à-dire à la hauteur au moins de tous les autres salariés en France, des autres secteurs en France, on n'aura pas besoin de compter sur la réalisation d'un capital. Et donc, on pourra transmettre une entreprise sans en transmettre son capital. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à la SCOP. Parce que dans la SCOP, aujourd'hui, on est tous les cinq associés, salariés et co-gérants. Donc, associés, ça veut dire qu'on a pris des parts sociales. Mais on pourra pas faire de plus-value sur nos parts sociales initiales. C'est-à-dire que si l'entreprise fait du résultat pendant plusieurs années, le capital, les réserves de l'entreprise sont impartageables, donc restent dans l'entreprise pour améliorer l'outil de travail, pour assurer sa pérennité. Et quand on est en SCOP, on est aussi salarié, donc associé salarié. Ce qui fait qu'on a un bulletin de salaire, on cotise comme tous les salariés de France à la MSA, enfin puisqu'on est dans le monde agricole, à la MSA, et ce qui nous assure une protection sociale au même niveau que les autres salariés des autres secteurs, quoi. Donc aujourd'hui, on est travailleurs paysans, quoi. On est salariés de notre propre entreprise, mais on est en même temps dirigeants de l'entreprise puisqu'on en est les co-gérants, quoi.
Est-ce que tu peux me donner ta définition du paysan? Qu'est-ce que c'est que pour toi un paysan? Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être paysan?
Pour moi, le paysan, c'est celui qui est au contact de ses habitants, des gens qui ont envie de se nourrir de ses produits, qui en discutent avec eux, qui s'adaptent à son environnement, à son climat, à ses moyens, et qui essayent de faire avec la nature et non pas contre la nature, quoi. Alors c'est difficile, hein. Nous, on est encore... Je pense qu'on est dans une démarche qui n'est pas aboutie sur ce volet-là. On essaye de progresser. Et pour moi, c'est aussi ça, le paysan. C'est celui qui se remet en cause et qui se dit, à partir du moment où je fais de la paysannerie, je perturbe l'environnement, je perturbe mon écosystème. On n'est plus dans des milieux naturels, on est dans des milieux perturbés. Mais comment je vais essayer de les perturber le moins possible? Comment je vais essayer d'observer ce qui se passe naturellement dans le vivant pour m'en inspirer sur ma ferme et faire en sorte que cette activité qui vient perturber les équilibres naturels puisse malgré tout perdurer le plus longtemps possible, quoi.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Et pourquoi avoir fait le choix du collectif et pas le choix de la cellule familiale en couple avec un enfant?
Dans un collectif, même si ici on partage un idéal commun, un projet politique, on a écrit un document qui s'appelle Nos Fondements, on a rassemblé toutes ces valeurs-là dans un document pour s'assurer que, un peu comme dans une maison, quand on construit une maison, on s'assure que les fondations soient solides, et ben nous, on s'assure que nos fondements, le fondement de notre projet est solide. Donc ça, ça nous rassemble, mais malgré ça, on est différents. On a des parcours différents, des façons de voir les choses, de les analyser, de les interpréter différemment. Ce qui fait qu'en réunion, quand une réunion est bien préparée et bien animée, on s'en sort toujours avec des idées qui vont plus loin que ce que chacun de nous aurait imaginé s'il était tout seul. Le tout fait plus que la somme des parties, quoi. Et vraiment, l'intelligence collective, c'est pas facile à mettre en place et à faire en sorte que ce soit efficace. Mais quand ça le laisse, c'est puissant, quoi.
J'observe autour de nous cette quête de sens. Beaucoup de gens cherchent la cohérence dans leur mode de vie. On se rend souvent compte qu'on n'est pas forcément à sa place quand on observe le travail ou la fonction qu'on occupe dans la société civile. Mmh. Et donc beaucoup de gens se tournent vers l'extérieur des villes et veulent retrouver une vie plus saine, plus propre et remettre le sens au cœur de leurs actions. Et comme tu le disais au début de cette émission, la paysannerie est quelque chose qui vient dans le top de la liste. Et donc beaucoup de gens quittent les villes, les étoiles plein les yeux, dans l'idée de s'installer en tant que maraîcher, en tant qu'apiculteur, en tant que fromager, boulanger. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une réalité qui est compliquée. En tout cas, plus compliquée que ce qu'on peut s'imaginer quand on est entre potes dans un appartement dans le 15e.
Mmh. Ouais, effectivement, on voit beaucoup de profils de ce type-là qui passent à la ferme, effectivement, qui ont entendu parler de ce qui se passe là et qui viennent chercher une expérience ici de vie paysanne au contact de nos activités quotidiennes. Et moi, je trouve que c'est bien qu'ils franchissent le pas et quelque part qu'ils se mettent un peu à nu en se disant ben, je lâche tout ce que je sais faire, je lâche mon mode de vie et je vais aller dans les fermes. Je sais rien faire avec mes mains. Je connais pas les légumes, je connais pas comment ça pousse. Mais ils osent venir et ils osent se remettre en cause et en même temps, ils ont l'ambition d'y arriver. Enfin, sans généraliser trop, mais parce qu'il y en a aussi qui se découragent et qui se disent bon, ok, j'ai compris, finalement c'est pas pour moi, soit je retourne à la ville, soit je vais aller à la campagne, je vais faire mon petit potager, mais il faut que je trouve un autre boulot si vraiment j'ai envie de gagner de l'argent à la campagne. Mais il y en a aussi beaucoup qui se disent bah, ok, j'ai compris que ça va être dur. Souvent ça leur fout une claque pendant la première année, ils se disent oula, ça va être beaucoup plus long que prévu, mais je pense que j'en suis capable quand même. Et donc ils vont se former, ils vont reprendre des études agricoles, ils vont faire des stages, ils vont pour certains faire quelques années de salariat, et puis quand ils vont se sentir prêts, ils vont se lancer, quoi. Et je pense que c'est vraiment la bonne méthode, arriver avec beaucoup d'humilité et laisser les expériences répondre aux questions, répondre à ces questions, voir si ça nous correspond ou pas, et voir si on a ensuite envie de se donner les moyens pour y arriver, quoi.
Mais quand on décide de se lancer, une des premières barrières qu'on va rencontrer, c'est l'accès au foncier.
Oui, c'est vrai. C'est vrai et en même temps, c'est vrai et c'est pas vrai. Parce que, et notamment dans les années qui arrivent, il y a la moitié de la France, la moitié des paysans en France qui ont plus de 50 ans. Ça veut dire que dans les 10 à 15 ans qui viennent, il y a la moitié des fermes qui vont changer de main. Donc le problème, c'est pas les terres disponibles, c'est à quel prix les terres et les fermes sont disponibles. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, pourquoi on s'est installé en SCOP et le rapport qu'on a au capital de l'entreprise. Eh bien, on peut avoir la même réflexion sur le capital foncier. Et nous, notre position là-dessus, c'est que la terre, ça n'a pas de sens qu'elle appartienne à quelqu'un. Et ça n'a pas de sens qu'elle se vende et qu'elle s'achète. Enfin, il viendrait à l'idée de personne à personne de privatiser l'air qu'on respire. viendrait à l'idée à personne de privatiser l'eau qu'on boit, pourtant il y en a qui l'ont fait. Et quelque part, on peut trouver ça tout aussi illogique que la terre qui nous nourrit soit un bien comme un autre qui s'achète et qui se vend, quoi, et qui a une valeur économique. Pour nous, c'est un bien commun sur lequel on pourrait imaginer un droit d'usage. À un moment donné, on a le droit de cultiver cette terre, on a le droit d'y planter des arbres, on a le droit, surtout le droit et le devoir de la respecter. Mais quand on a fini d'utiliser cette terre, eh bien, vers quelqu'un d'autre, il n'y a pas de notion d'argent qui devrait arriver là-dedans, quoi.
C'est ce proverbe amérindien qui dit qu'on emprunte la terre à nos enfants. La terre ne nous appartient pas, nous l'empruntons aux générations futures.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça, c'est un bien vital de l'humanité, tout comme l'eau et l'air. Et voilà, je ne sais pas comment s'en sortir. Nous, on se sent assez proche du mouvement Terre de Liens. La terre, est, quelque part, appartient à tellement de monde qu'elle n'appartient plus à personne. C'est une façon de diluer un peu le droit de propriété. Mais c'est une démarche intéressante qui ne va pas jusqu'à remettre la terre comme un bien commun. Là, il faudrait que ce soit une décision nationale et européenne, voire internationale. On n'en est bien sûr pas là du tout. Mais c'est une première étape. C'est ces fermes qui appartiennent à Terre de Liens. Terre de Liens les achète. Et une fois qu'elles sont achetées, elles ne seront plus jamais à vendre et elles sont réservées à des paysans qui s'installent en agriculture biologique.
Pour parler des différents modes de production, donc on parle de permaculture, d'agroécologie, d'agroforesterie, d'agriculture biologique. Comment est-ce que vous avez choisi le mode de production employé ici ?
Pour nous, c'était une évidence. Hein. S'installer en bio, on n'en a même pas discuté. La ferme était en bio depuis toujours. C'est même une des conditions qu'on a choisi nous-mêmes, en discussion avec le propriétaire, bien sûr, de faire figurer dans le bail. C'est-à-dire, une des clauses du bail, c'est de cultiver la terre ici en bio et en agroécologie. L'agriculture paysanne, c'est quelque chose de complémentaire pour nous à l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, quelque part, c'est un cahier des charges qui interdit l'utilisation de produits chimiques de synthèse, de pesticides et d'engrais, d'OGM. Bien sûr, ça, on y adhère. Mais pour nous, c'est pas suffisant. Il y a aussi une dimension humaine, sociale, territoriale qui est importante. Et c'est ce qu'on trouve dans la démarche d'agriculture paysanne, telle qu'elle est portée par la Confédération paysanne. Nous, on est proche et plus que proche, on est à l'intérieur de la Confédération paysanne. En tant que militant, on est aussi adhérent et membre actif du réseau des ADAR, qui est les associations de développement qui ont été créées par la Confédération paysanne. Et on est aussi à Nature et Progrès, qui est une autre fédération, une fédération de l'agriculture biologique qui, depuis 1964, travaille sur le sujet de la bio avec une approche globale, pas uniquement technique, mais aussi sociale, environnementale, énergétique, etc. Donc on est dans tous ces réseaux-là, parce que, comme je le disais au départ, ça fait partie de la raison pour laquelle on s'est installé. On ne s'est pas installé juste pour produire des céréales, du pain et des légumes. On s'est installé pour participer à un changement de société. Et c'est avec les autres qu'on le fera, quoi. Avec ces réseaux-là, avec les autres paysans, avec les consommateurs et avec les gens qui ont envie de changer les choses, quoi.
Qu'est-ce que tu as envie de donner comme message à tous ces citadins qui ont envie de faire le chemin que tu as choisi ?
J'ai envie de leur dire, allez-y, faites votre sac à dos, prenez votre bâton de pèlerin et puis... Venez dans les campagnes, venez, si vous avez envie de donner du sens à votre vie, si c'est ce qui vous manque à la ville, il y a moyen de trouver un sens à la campagne, mais surtout on a besoin d'être plus nombreux. On est cruellement isolés ici, et un peu partout dans les campagnes de France. On a besoin d'artisans, on a besoin de professionnels de santé qui il faut retisser des liens et recréer des villages, en fait. On est allé beaucoup trop loin dans la concentration des villes. On est allé beaucoup trop loin dans notre dépendance au pétrole, dans notre dépendance à tous les minéraux, à tout ce qui va manquer bientôt sur la planète. Et il y a urgence à relocaliser et avoir des compétences, avoir des savoir-faire, avoir tout un tas de profils différents à la campagne. On n'a pas besoin que de paysans. On a besoin d'être plus nombreux pour pouvoir nourrir tout le monde. Si on veut, de toute façon, on va devoir utiliser moins de chimie, et je pense même plus de chimie. On va devoir se passer de pétrole. Du coup, il va falloir qu'on soit plus nombreux à la campagne pour pouvoir se nourrir. Mais la campagne, vivre à la campagne, et vivre tout court, c'est pas que se nourrir. c'est aussi se loger, se vêtir, avoir des activités culturelles, voilà, sociales. Et donc, il faut retisser ce lien à la campagne. Et plus on sera nombreux, plus ce sera enthousiasmant de vivre à la campagne. Donc, allez-y, venez tester, venez découvrir. Et puis, je pense que si on est nombreux, ça peut donner envie, quoi.
Mathieu, merci.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Vous écoutez La Voix du Kaizen.